Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous sommes toujours dans les alliances, les quatre alliances qui suivent l'acte créateur de Dieu, donc Dieu qui n'oublie pas son peuple, Dieu qui ne le laisse pas tomber. La dernière fois, nous parlions de l'alliance entre Dieu et Moïse, qui s'inscrit donc dans la loi, la loi pour faire la relation à Dieu, pour entrer dans ce perfectionnement de notre vie. C'est une vraie pédagogie que Dieu manifeste dans ses alliances et un vrai souci de tous. Quand on voit le catéchisme, hein, cette phrase « Dieu forme son peuple Israël », j'aime cette idée même à titre personnel de me dire « je suis en formation avec Dieu ». Et je m'inscris dans la relation à Dieu, mais porté par ceux qui nous ont précédés. Le catéchisme parle du peuple, de ceux à qui Dieu a parlé en premier, et le peuple des frères aînés dans la foi d'Abraham. C'est toujours important de se souvenir qu'il y a des frères aînés.
Oui, nous avons des frères aînés, ce sont les Juifs. Et nous nous souvenons que Jésus est, dans son humanité, juif, que toute la Sainte Famille est juive, que les apôtres sont juifs, que la communauté d'origine est juive. Et ce serait un risque de martionnisme que de l'oublier. Le martionnisme, c'est cette tentation de gommer l'Ancien Testament au profit seulement du Nouveau, de dire qu'il y aurait eu un Dieu vautour, dans le fond, dans l'Ancien Testament, un Dieu sévère, un Dieu juge, etc. Et qu'avec le Nouveau Testament apparaîtrait le Dieu amour. Mais l'Église a dit niet à ce discours en disant non, nous sommes dans la continuité. Et d'ailleurs, la preuve de la continuité, c'est qu'au moment le plus glorieux de la vie terrestre de Jésus, en dehors bien sûr de sa résurrection, c'est le mont Tabor, le mont de la transfiguration dont parlent les évangiles et sur lequel Jésus n'apparaît pas seul, il apparaît avec Moïse et Élie, Moïse dont nous parlions la dernière fois, Moïse qui montre la continuité que Jésus, nouveau législateur, ne se met pas en dehors du premier législateur, et donc ce sont nos frères aînés, parce qu'ils ont la foi d'Abraham, et que nous sommes dans la séquelle-là, en quelque sorte, de la foi d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Et on peut dire qu'ils sont aussi nos pères dans la foi, selon l'expression ajoutée par Benoît XVI à Jean-Paul II. Jean-Paul II disait « ils sont en quelque sorte nos frères aînés dans la foi », mais Benoît XVI dit « ce sont en quelque sorte aussi nos pères dans la foi ». On pourrait presque dire aussi que le peuple juif, après la mort et la résurrection de Jésus, a évolué selon ses propres traces qui sont différentes des nôtres et que est sorti après la destruction du temple comme deux rameaux de cet Israël ancien, l'Église d'une part et une sœur qui est ce qu'est le judaïsme aujourd'hui. Et ces Juifs existent encore et ils se situent comme dans la ligne exacte de Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Ils ont le sentiment d'être dans la pérennité par rapport à ces lois anciennes, ces trois premières lois. Nous avons le sentiment qu'il y en a une nouvelle, que la prophétie de Jérémie 31-31 s'est vraiment accomplie au moment où Jésus, le soir de sa Pâque, a pris du pain, a pris du vin et a institué l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. C'est le sang d'une alliance nouvelle. Et Jésus a repris, a réactualisé en quelque sorte les paroles de Jérémie 31-31 qui annonçait cette nouvelle alliance, mais il la réalise dans son sang, dans le mystère de sa Pâque, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est quelque chose, vous voyez, donc de nouveau, mais dans une continuité, c'est-à-dire que nous ne nous situons pas dans la Nouvelle Alliance, comme si cette nouveauté déclarerait que tout ce qui est avant Jésus-Christ n'existerait plus. C'est une continuité qui a impliqué inévitablement des ruptures et des dépassements, mais aussi quelque chose qui fait que nous sommes concaténés avec la première alliance. Et la preuve la plus forte ne sont pas dans les institutions, bien sûr, qui ont disparu avec la destruction du temple, il n'y a plus les sacrifices anciens, mais dans la pérennité de la loi dont nous parlions la dernière fois, l'alliance du Sinaï perdure. On a toujours les 10 commandements. Et même si nous sommes heurtés souvent par les médias qui essayent de pulvériser tel ou tel aspect des 10 commandements, ils demeurent parce que c'est Dieu qui a parlé et c'est Dieu qui veut que nous nous y maintenions dans la continuité.
Et donc cette alliance en Jésus s'inscrit dans une continuité, s'inscrit dans la pédagogie de Dieu. Je note dans le catéchisme l'importance de voir donc après Moïse, il y a les prophètes. Enfin, donc dans cette continuité, il y a les prophètes, dit le catéchisme. Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes. La première chose que je trouve importante de bien redire, c'est destinée à tous les hommes.
À tous les hommes, oui. Il y a quelque chose d'universel qui est déjà inscrit chez les prophètes et qui est inscrit très fortement dès l'alliance promesse où tous les peuples seront bénis en Abraham, en toi seront bénies toutes les nations, Genèse chapitre 12. Dès le premier moment où Dieu s'adresse à Abraham, il annonce une bénédiction de toutes les nations, et cela veut dire que ce ne seront pas seulement certains, nous ne sommes pas du tout machistes, nous pensons aussi aux femmes. Abraham a été béni, mais Sarah a été bénie. Les saintes femmes ont accompagné ce mouvement, vous voyez, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je trouve très beau que le catéchisme de l'Église n'oublie pas celles qui sont les épouses, celles qui sont parfois des prophètes, comme Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme d'Isaac, Rachel, qui est la femme de Jacob, la deuxième femme de Jacob. On aurait pu ajouter Léa, je ne sais pas pourquoi Léa a été oubliée dans cette liste. Myriam, qui a eu un rôle important pour Moïse, c'est la sœur de Moïse, et ce n'est pas du tout, bien sûr, la mère de Jésus, comme c'est écrit dans le Coran, une énorme absurdité que l'on voit au passage. Myriam, qui est la sœur de Moïse, celle qui a magnifié la joie d'être passé à travers la mer Rouge. Déborah, qui a eu un rôle important au moment des luttes contre les ennemis d'Israël, à l'époque des juges, elle a aidé à vaincre sur le mont Tabor les armées qui s'opposaient à Israël. Vous avez Anne, qui a un rôle plus modeste, mais qui en même temps est cette période qui annonce une intensité de prière plus importante, avec la période d'Élie, et puis Judith, qui va être une femme guerrière, Esther aussi, qui va affronter le roi ennemi, qui va permettre au peuple juif de survivre. Tout ça, ce sont des figures de Marie, Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith et Esther. Elles entourent en quelque sorte la Vierge Marie, comme cela est représenté à Jérusalem dans cette belle église de la Dormition tenue par des moines bénédictins qui ont voulu montrer la Vierge Marie dans sa Dormition. Et il y a les figures de ces saintes femmes autour de Marie. Chacune a une qualité et ces qualités rappellent le rôle de la Vierge Marie qui va nous donner Jésus, qui va nous donner la nouvelle alliance en quelque sorte. Que pourrions-nous faire sans la Vierge Marie ?
Donc là, c'est l'article 64 du catéchisme que du coup tu regardes et que j'avais commencé voir avec cette idée de Dieu forme son peuple. Oui. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir ces femmes que cite le catéchisme, ces saintes femmes qui ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. Conservé vivante l'espérance du salut. Dans cet article 64, je reviens sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure de la nouvelle alliance de Jérémie en 31-31, qui est évoquée ici. Et cette alliance nouvelle, éternelle, destinée à tous les hommes et qui sera inscrite dans les cœurs. J'aime beaucoup cette précision-là, c'est bien ce que dit Jérémie, je mettrai ma loi au fond de votre être si je ne me trompe pas. C'est cette idée que dans l'alliance que Dieu fait, il est en train d'inscrire en nous-mêmes la loi, de sorte que ce n'est plus quelque chose qui est censé être extérieur à nous, comme si ça nous obligeait de l'extérieur, mais ça devient cette obligation intérieure, cette joie intérieure de répondre d'être uni à la volonté même de Dieu, d'être inscrit dans la relation, dans la connivence à Dieu, ai-je envie de dire.
Oui, tout à fait. La loi est donnée pour que la grâce soit mendiée, c'est-à-dire l'intimité avec la volonté de Dieu, et la grâce est donnée pour que la loi soit accomplie de telle sorte que nous ne quittions pas les sentiers de Dieu. Et c'est ce rapport entre la loi et la grâce qui est si important. Et la lumière va être faite avec Jésus-Christ, puisqu'il nous est dit dans le prologue de Saint Jean que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il va y avoir effectivement un mouvement d'approfondissement, un mouvement de plus en plus intérieur qui va advenir dans le passage de l'alliance du Sinaï à la nouvelle alliance en Jésus-Christ.